mental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui ne cesse de vous accorder la parole. La RDC n'a arrêté ni livré à la CPI le président soudanais Omar El-Béchir, comme l'exigeaient près de 90 ONG. Selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, le président soudanais qui est recherché par la CPI s'est récemment rendu en RDC sur invitation du COMESA et non de la RDC. Le pays s'inscrit par ailleurs dans la ligne de l'Union africaine qui a levé l'option de ne pas livrer à la CPI un président en exercice, a-t-il souligné. Alors, comment vous commentez cette actualité? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net et vous avez la possibilité de nous appeler au 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Nous disons merci à Pierrot et Lamegi pour la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Claude Mokondo qui, au fait, en assure la mise en onde avec dextérité. Et cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Avant que nous puissions ouvrir le standard pour recueillir vos avis et considérations également, vos préoccupations par rapport au sujet, par rapport à la thématique, nous recevons dans ce studio le professeur Tshibangu Kalala, qui est professeur en droit international à la faculté des droits à l'UNIKIN. Bonjour professeur.
Bonjour.
Voilà, quel commentaire d'entrée des jeux faites-vous par rapport à cette polémique qui a défrayé la chronique par rapport au séjour du président soudanais en RDC?
D'abord, je tiens d'abord à vous remercier sincèrement pour m'avoir invité à animer cette belle émission qui est très attendue. C'est vrai qu'il y a toute cette polémique à laquelle vous avez fait allusion. Ça montre que les Congolais aiment leur pays. Eh bien, ils veulent que l'État congolais respecte ses obligations internationales, que ce soit un pays modèle, respecté sur le plan international, et dès que les Congolais constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ils essaient de réagir. Donc jusque-là, c'est très bien.
Mais la RDC est signataire du statut des Roms, la RDC.
Oui, mais peut-être que vous...
Donc on peut dire que la RDC ne pouvait que faire la volonté de la CPI.
Non, peut-être. Alors là, vous voulez qu'on entre dans le fond du sujet, que je puisse peut-être introduire ce débat de manière générale. Écoutez, il faut savoir ceci. Que la RDC est membre de la CPI. Elle a assumé un certain nombre d'obligations internationales en signant ce traité, en ratifiant ce traité. Notamment, l'obligation générale de coopérer. Ça, c'est l'article 86 du statut de Rome. Comme d'autres pays membres de la CPI. Donc, chaque fois que la CPI lui adresse une demande de coopération, d'arrêter une personne qui est sur son territoire, la RDC a l'obligation de coopérer avec la Cour internationale. La Cour pénale internationale, d'arrêter la personne et de livrer cette personne à la CPI. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. C'est obligation. Mais il faut faire très attention. Il ne faut pas seulement lire l'article 86 et les autres articles qui suivent, mais il faut aller plus loin. Il faut aller voir aussi l'article 98 ou 98, selon que vous soyez belge ou français. Mm-hmm. Donc, l'article 98. Alors, il faut peut-être que je lise cet article pour les auditeurs de Radio Okapi, parce que tous les débats est là. Qu'est-ce que cet article dit? L'article dit ceci. Alinéa 1er. La Cour pénale internationale ne peut pas poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États. Immunité des États. Il faut s'arrêter là. Immunité des États. Ou d'immunité diplomatique d'une personne, etc. Mais cette partie ne nous intéresse pas. Martha, unité des États. Il y a maintenant la deuxième partie de cet article. le paragraphe 2. La Cour pénale internationale ne peut pas poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise. Donc, voilà ce qui est prévu. Qu'est-ce que cela signifie? Et je souhaiterais que les ONG qui ont lancé ce mouvement, vraiment, cela. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie ceci. Les États ont créé la CPI. Mais ils ont pris une certaine précaution. Un créateur, Gilles Lungembo, un créateur ne peut pas accepter d'être bouffé par sa propre créature. C'est pas possible. Donc c'est tout à fait normal que les États aient pris des précautions en disant oui, nous allons coopérer avec la Cour. Nous allons tout faire, mais attention, il ne faut pas que la Cour nous
bouffe. Que nous perdons notre immunité, que nous perdons notre,
bien sûr,
que, notre souveraineté.
Ben, il ne faut pas que notre créature nous bouffe nous-mêmes. C'est ainsi que les États ont prévu une certaine exception. J'utilise le mot exception pour des raisons pédagogiques, mais c'est une limitation à la coopération. D'ailleurs, l'article 98 ou 98 est intitulé « Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité » et le consentement à la remise. Ça dit tout déjà. Alors, très concrètement, je commence par la deuxième partie. Prenons un exemple. La CPI lance un mandat d'arrêt contre l'ambassadeur d'Angola à Kinshasa. C'est un exemple que je donne. En disant que cet ambassadeur a commis des crimes de guerre, d'humanité, etc. Et donc, la RDC doit l'arrêter et l'envoyer à l'AIE. Est-ce que la RDC peut le faire? Parce que là, c'est l'État. Eh bien, non. C'est l'article 98. Deuxième partie. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur angolais à Kinshasa jouit des immunités diplomatiques. Il y a des accords internationaux qui font qu'un ambassadeur étranger dans le pays où il se trouve, c'est ce qu'on appelle le pays d'envoi, il ne peut pas être arrêté dans le pays d'accueil. Et donc, le gouvernement congolais ne peut pas procéder à l'arrestation de l'ambassadeur angolais ici à Kinshasa directement et l'envoyer à l'AIE. On doit d'abord demander l'accord de l'Angola qui doit commencer par lever l'immunité de l'ambassadeur. Lever l'immunité. D'ailleurs, c'est la Cour elle-même qui doit faire ces démarches-là. C'est dit clairement. Donc, pour aller demander en disant, eh bien, il faut lever l'immunité de votre ambassadeur pour qu'on puisse l'envoyer à l'AIE. Et donc, on ne peut pas le faire.
Mais pour lesquels espèces, ça crée quand même une confusion entre la logique de l'Union africaine et la procédure, en fait, engagée par la CPI. Et qui a la préséance?
Je vais arriver. Si vous me demandez mon avis personnel, je ne suis pas d'accord.
Non, parce qu'en tant que professeur, justement, c'est en droit international.
Oui, je vais répondre à votre question. Mais laissez-moi d'abord commenter le premier paragraphe. Oui. Donc, vous voyez, il y a la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui est là depuis 1961. Eh bien, dans cette convention, les diplomates étrangers, là où ils se trouvent, ils sont protégés. On ne peut pas les arrêter parce qu'ils bénéficient des immunités diplomatiques. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les juger.
Il y a le principe des accords de siège.
Exactement. Donc, il faut absolument qu'on lève ça au préalable. Si l'Angola n'élève pas l'immunité diplomatique, eh bien, on ne peut pas l'arrêter malgré le mandat d'arrêt lancé par la CPI. On ne peut pas parce que c'est l'État. Il faut se protéger. A fortiori, là il faut tenir un raisonnement a fortiori. Si un ambassadeur, on ne peut pas l'arrêter dans le pays où il se trouve, malgré le mandat d'arrêt, a fortiori le chef de l'ambassadeur. Et là c'est le paragraphe premier, où on dit, là il y a des immunités des États. Qu'est-ce que signifie immunité des États? C'est différent. Ce sont deux concepts différents. Immunité des États et immunité diplomatique. C'est tout à fait différent. C'est pas la même chose. Mais immunité des États, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un État, je donne un exemple. On distingue généralement en droit international ce qu'on appelle immunité des juridictions et immunité d'exécution. Immunité des juridictions. Un État étranger ne peut pas être poursuivi en justice sur le territoire d'un autre État. Mmh. Pourquoi ? Parce que un souverain ne peut pas être jugé par un autre souverain. Un égal ne peut pas être jugé par un autre égal. Donc on ne peut pas poursuivre l'État congolais devant des tribunaux angolais de Luanda. C'est interdit. Juridiction civile. Mais il y a des exceptions que je ne sais pas commenter pour le moment. Mmh. Même chose, on ne peut pas saisir les biens d'un État à l'étranger. Par exemple, on ne peut pas aller saisir les biens de l'État congolais en Angola, en Afrique du Sud. Il y a immunité d'exécution. Par exemple, les biens de la Banque centrale, de la BCC ici, on ne peut pas les saisir à l'étranger. Les avions militaires ou les navires militaires qui appartiennent à l'État, on ne peut pas les saisir, etc. Il y a des exceptions, pour les biens, mais il y a des exceptions. Maintenant, nous retombons dans le cas de Béchir, nous intéresse. Il y a aussi ce qu'on appelle les immunités des juridictions pénales. Ce que je vous dis là, ça c'est civil. Juridiction pénale. Ça signifie que les dirigeants d'un État, et en droit international, on cite normalement le président de la République, chef de l'État, le premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre des Affaires étrangères. Ces dirigeants-là, ces trois-là, principe, lorsqu'ils se trouvent à l'étranger, sur le territoire d'un autre État, on ne peut pas les arrêter. Ils ne peuvent pas être poursuivis en justice devant les tribunaux de ce pays-là. Et ils jouissent de ce qu'on appelle de l'inviolabilité physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer des policiers, des agents de sécurité, aller arrêter un chef d'État étranger qui se trouve sur un État, à l'invitation officielle, il est là, et on envoie des agents de sécurité lui mettre des menottes au poing. Vous vous imaginez, c'est très grave. Et donc les États se sont protégés. Donc les dirigeants d'un État qui se trouvent à l'étranger, ils sont protégés par l'État d'accueil, là où ils se trouvent. Donc on ne peut pas les arrêter. Inviolabilité absolue. C'est d'autant plus vrai, je vais terminer par là, que la RDC a gagné un procès international qui fait référence aujourd'hui dans le monde entier. C'est l'affaire Abdoulaye Yerodian Dombasi contre la Belgique. Qu'est-ce que la Belgique a fait au mois d'avril, le 11 avril 2000? Eh bien, on a lancé un mandat d'arrêt international par la justice belge pour qu'on arrête Abdoulaye Yerodian Dombasi, qui était ministre des Affaires étrangères de la RDC à l'époque, au mois d'avril. En octobre, Mosé se fâche, il lance une attaque judiciaire contre la Belgique pour dire que la Belgique a violé le droit international en lançant un mandat d'arrêt pour qu'on arrête un ministre des Affaires étrangères en fonction. On est allé devant la Cour internationale de justice, à La Haye. Il y a eu un procès. Le 14 février 2000, la Cour internationale a tranché l'affaire. Et qu'est-ce que la Cour a dit ? Elle a dit, messieurs, un ministre des Affaires étrangères, en fonction, dans l'exercice, en fonction, qui se trouve à l'étranger, sur le territoire d'un autre pays, eh bien, on ne peut pas l'arrêter. Il jouit de l'inviolabilité physique totale et absolue. Et la Cour a donné l'ordre, une injonction. Il a utilisé même le terme très fort, mettre en ayant, a demandé à la Belgique de mettre en ayant, c'est-à-dire d'annuler purement et simplement son mandat d'arrêt lancé contre Yerodian.
Et c'est ce qui a été fait.
Parce que Yerodian avait commis des crimes, avait voilà, commis des crimes. Voilà, et donc, ça c'est absolu. Oui. Ce qui est vrai pour les ministres des Affaires étrangères, l'est également pour le chef de l'État qui est au-dessus. Donc on ne peut pas le faire.
On va ouvrir le standard parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui en fait ont pris déjà leur inscription pour participer à ces débats. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi le faire. Donc en composant les 081 890 63 15, la RDC n'a arrêté ni livré à la CPI le président soudanais Omar El Béchir comme l'exigeait près de 90 ONG, et c'est là fait polémique, cela fait déjà un débat. Vous avez droit au chapitre également, donc composez nos numéros pour entrer en contact avec nous.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ce studio professeur Tshibangu Kalala, qui est professeur en droit international. Mais entre-temps, on va passer de l'autre côté des standards avec Epanzola qui est à Lubumbashi. Epanzola, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'invité qui est là dans le studio.
Omar El-Béchir a séjourné à Kinshasa lors du sommet de COMESA. Alors, selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, le président soudanais qui est recherché par la CPI est arrivé à Kinshasa sur invitation du COMESA et non de la RDC. Alors, le pays s'inscrit, selon le porte-parole, dans la ligne de l'Union africaine qui a levé l'option de ne pas livrer à la CPI un président en exercice. Alors, comment vous commentez cette actualité?
En tout cas, c'est avec beaucoup de respect que je salue ce que le gouvernement congolais vient de faire, son comportement vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Je pense que ça va rester dans l'histoire de ce pays. C'est pour prouver que la RDC, c'est un pays, un grand pays, qui commence à s'élever, qui commence à comprendre les choses, qui commence à comprendre les droits internationaux. Parce que livrer M. Omar El-Béchir à la CPI, là, ça devrait être comme si la RDC est encore sous colonisation des Européens et des Occidentaux pour voir que non, voilà, en RDC, il n'y a pas de juristes, il n'y a pas des hommes de droit, mais ce que la RDC vient de faire, en tout cas, je salue ça avec beaucoup de respect.
Oui, bon. Ben oui, et Panzola, c'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes, hein. Il y a d'autres observateurs qui estiment que le comportement qu'on vient d'afficher la RDC, ça risque quand même de ternir un peu cette coopération acceptée entre les États membres de la Cour pénale internationale au égard donc de leur signature, de leur ratification au niveau de statut des Roms, parce qu'il est dit dans l'article 86, l'obligation générale de coopérer, comme l'a dit notre invité, conformément aux dispositions du statut, les États parties coopèrent pleinement avec la Cour. Alors là, on sent que la RDC, en fait, n'a pas voulu coopérer pleinement. Est-ce que vous partagez cet avis?
Vous devez savoir une chose. Si la RDC n'a pas coopéré, c'est dans le sens que parce que Omar El-Béchir, c'est un président en exercice. Ce n'est pas un président qui n'est pas en fonction, il est en fonction. Et puis, il était invité en RDC juste pour une réunion de COMESA. Bon, si par exemple la RDC mettait la main sur M. Omar El-Béchir, ça devrait être aussi une violation. Et puis, en même temps, vous devez savoir aussi une chose, que le Soudan n'a pas ratifié quoi le statut de Rome pour qu'il soit membre de la CPI. Et si la RDC avait fait cela, il allait d'abord rendre un mauvais service, décevoir l'Union africaine, parce que, vous savez, dans la réunion de l'Union africaine, ils ont dit qu'on ne peut pas livrer un président en exercice auprès de la Cour pénale internationale.
Oui, et Panzola, tout à l'heure, j'avais posé la question à notre invité, entre l'Union européenne et la CPI, qui a la préséance.
Bien sûr, la CPI a la préséance. Bon, c'est lui-même le praticien du droit. Bon, vous savez, la CPI a violé les droits internationaux en demandant à la RDC d'abord de mettre la main sur M. Omar El-Béchir, ce qui n'est pas le cas, parce que Omar El-Béchir, c'est un président, il est en exercice.
Merci beaucoup, Epanzola. On va prendre Théodore qui est en Boujimaï. Théodore, bonjour.
Bonjour, Gérard, et bonjour aussi à notre invité, le professeur.
Vous avez la parole, Théodore.
Les ONG congolais ont appuyé la CPI pour que le président soudanais soit extradé ou bien arrêté par la République démocratique du Congo sous son sol. Mais je me pose la question, c'est à quel moment et à quelle circonstance qu'il faut l'arrêter? D'un côté, il ne faut pas livrer un président en exercice selon les uns et les autres, et surtout l'Union africaine. Comme l'invité venait de le dire, vous savez, l'invité a donné des exemples sur les ambassadeurs et sur le premier ministre, ou bien le ministre Eroudia. Mais moi, je voudrais bien qu'il donne un peu l'exemple au niveau international. Et je propose ceci. Moi, je propose que la CPI, ou l'AE, doit penser à avoir ses propres militaires dans les cadres de recherche dans les pays voisins, dans les pays étrangers, pour l'exécution du mandat afin d'éviter les conflits entre pays amis et souverains. Voilà la proposition.
Oui, mais Théodore, il ne faut pas oublier que dans l'article 87, l'article 87 du statut des Roms, il est dit que oui. S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'UNEA, donc la Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération, les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle, l'Interpol. Donc, quand vous parlez déjà de la police, il y a une disposition qui parle déjà de l'Interpol. Et pourtant, l'Interpol opère et fonctionne, à mon avis, en RDC.
Ah, c'est ainsi qu'ils doivent changer, c'est là, parce que c'est difficile. Un pays ne peut pas livrer un président en exercice. Ils doivent changer l'article pour dire que la CPI ou bien l'AE doit avoir ses propres militaires en vue de suivre l'accusé partout où il serait.
Merci beaucoup, Théodore, d'avoir appelé de Mbujimayi. Watson, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Oui, bonjour, JR.
Vous avez la parole. Votre point de vue.
Oui, je pense que la décision du gouvernement de la RDC, c'est appréciable parce qu'il est inacceptable et même inadmissible qu'on arrête un président dans notre sol. Vous savez, il y a des Congolais vivant au Soudan. Vous connaissez qu'avec les Arabes, tout peut arriver. Hein, si on faisait arrêter un président ici chez nous, ça peut créer des conflits. Ça peut créer des conflits avec tous nos frères vivant là-bas. Ils pouvaient être chassés là-bas. Donc, j'encourage le gouvernement. Mais le gouvernement ne peut pas allumer les feux, ne pas savoir comment l'éteindre. Heureusement pour eux, ils ont atteint cela. Je pense que il ne fallait pas arrêter ce président-là parce que d'abord, c'est un président qui est en exercice. Si la CPI veut arrêter ce président, qu'il se rende au Soudan, il est là-bas, ils vont l'arrêter. Au lieu de nous créer, nous, des problèmes. Vous savez que la RDC, c'est un pays qui au regard de tout le monde. Dès que nous faisons une petite erreur, c'est tout le monde qui va crier. Vous savez, dernièrement, avec le Rwanda, il y a un monsieur Patrick qui a été tué en Afrique du Sud. Vous verrez que le média occidental nous dit beaucoup plus sur ça. Mais si c'était la RDC qui avait ce genre de problèmes-là, on devait parler jusqu'à tel point qu'on devait sanctionner. Donc je pense que la RDC a fait très bien, mais que le gouvernement, j'avais des questions à poser à notre invité, que le gouvernement d'abord nous dise pourquoi il y avait ce président-là. Le gouvernement savait que le président, il avait des problèmes avec la CPI. Pourquoi ils l'ont invité? Qu'est-ce qui les a motivés à inviter ce président? Parce qu'il y a beaucoup de présidents, il fallait inviter un autre président à la place de celui-là pour créer, nous, des Congolais, mais tous ceux qui vivent au Soudan, des problèmes. La deuxième question, c'est de savoir, les ONG qui ont motivé, qui voulaient qu'on arrête le président MDG ici chez nous au Congo, qu'est-ce que les ont motivé et qui est derrière eux? Nous devons le savoir parce qu'il ne fallait pas nous créer des problèmes pour ça. Je pense, j'encourage le gouvernement pour ne pas prendre des genres de décisions, du moins des décisions qui pouvaient nous coûter très cher, surtout aux Congolais vivant au Soudan.
Merci beaucoup. Vous avez une grande inquiétude, hein, et une inquiétude qui va même au-delà de procédures disponibles selon la législation nationale, telle que l'article 88 la recommande en disant que, en fait, les États parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le chapitre 2 du statut des Roms. Donc le chapitre, 9 du statut des Roms. Voilà. Merci beaucoup, Watson, d'avoir appelé de Kolwezi. Nous allons prendre Franck qui est à Vienne. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur Gir, bonjour aussi au professeur Tibangoukala au studio.
Voilà, alors la RDC n'a arrêté ni livré à la CPI les présidents soudanais. Cela suscite des commentaires partout. Alors, comment vous commentez cette actualité?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Me référant à ce que le prof venait de dire à la lecture de certains articles tels qu'il venait de le faire, il y a quelque part des mauvaises lectures qui se font de la part de ces ONGD et veulent se servir de la RDC comme bouc émissaire. Tel que le prof venait de le expliquer en détail, les conditionnements des arrestations et des livraisons sont vraiment clairs et précis. Et je trouve qu'à ce niveau, la RDC n'y est pour rien. Mais seulement, comme on a souvent cherché à ternir l'image de notre pays, on veut bien profiter de cet incident pour nous mettre sur les bas des accusés. Je crois que nos autorités doivent seulement éviter de se faire piéger, parce que nous sommes encore en pleine situation de guerre vers l'Est. Là-bas, il y a encore des situations délicatesses, des situations assez fragiles. Alors, on ferait mieux de ne plus chercher à créer des polémiques avec les États voisins, parce que dans la plupart des cas, le problème que nous avons à l'intérieur de la RDC, ça vient des pays frontaliers. Alors, demander à la RDC d'arrêter un président en exercice, alors que les textes légaux en cette matière ne le permettent pas, ça c'est chercher à se servir encore d'un innocent, d'un faible, pour le mettre comme sur le plateau de la tête de Jean-Baptiste ou quoi. Moi je trouve que là, on a quand même agi avec sagesse, avec prudence, on a bien fait la lecture des textes internationaux.
Oui, Franck.
Et ces gens qui exigent l'arrestation de ce président mais c'est aussi le faire quand il se déplace dans d'autres pays, par exemple dans des pays arabes. Pourquoi on ne peut pas exiger quand il est dans quel pays seulement à RDC?
Oui, Franck, je crois qu'il y avait une préoccupation tout à l'heure. Hein. C'est la question que j'avais même posée, une question de relance à Epanzola, même à notre invité. En fait, entre la CPI et l'Union africaine, parce qu'aujourd'hui, les uns s'inscrivent dans la lignée ou dans, sous la, lune, la ligne de recommandation de l'option levée par l'Union africaine, et tandis que d'autres s'accrochent sur les articles dispositions du statut des Roms. Alors, entre les deux, qui a la préséance?
Je ne suis pas juriste de formation, mais je crois que si la CPI est une juridiction vraiment autonome qui doit travailler sans recevoir des pressions de tel et de tel, la réponse est déjà claire. Mais seulement l'Union européenne doit aussi éviter de s'ériger partout en donneur de leçons par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Même ici en Europe, il y a aussi des cas qui se passent dont personne ne veut parler. Donc l'Europe a peut-être des avantages, mais à l'intérieur de l'Europe, nous sommes ici, nous voulons. Il y a aussi des histoires qui ne marchent pas. Mais on doit toujours éviter de s'ériger en donneur de leçons quand il s'agit de l'Afrique. Il se passe des situations en Ukraine partie par là. Qui donne des ordres pour aller arrêter tel, pour aller faire ceci là-bas. Mais pourquoi seulement si c'est l'Afrique, tout le monde s'érige en donneur de leçons. Donc on n'est pas quand même des éternels enfants. On peut aussi prendre le destin de notre continent en main, aussi chercher à faire ce qui est bien pour nous. Moi, je crois qu'il faut seulement demander à nos présidents, à nos dirigeants, à nos responsables politiques de se prendre en considération, de ne plus se laisser faire. Parce que tout ceci, c'est parce que quand ça ne va pas là-bas chez nous, ils recourent toujours à l'Europe. Quand ça ne va pas chez nous, les arbitres viennent de l'Union européenne. Et quand vous les prenez pour arbitres, quand ça ne va pas chez vous, entre vous-même là-bas,
voilà, donc si je comprends
donc,
bien.
Part, nous devons d'abord leur dire que nous sommes aussi des grands garçons, des grandes personnes. On n'a pas seulement besoin de recevoir des dictats.
Voilà. Alors, moi, je pense, si je comprends.
Encourager de telles choses. Non,
si je comprends. Pas aller comme ça. Si je comprends votre inquiétude, Franck, aujourd'hui, il faut réhabiliter la justice en Afrique pour permettre à ce qu'on soit vraiment autonome, pour qu'on puisse agir en toute légalité et aussi vraiment d'une manière un peu. Juste quoi, pour permettre à ce qu'on n'ait plus les injonctions de l'extérieur. Ça, ce sera l'idéal.
Oui, oui, c'est tout ce que j'ai toujours mis, c'est tout ce que j'ai toujours dit, même par rapport à la justice congolaise, par rapport à la justice africaine. Les Africains, nous-mêmes, nous devons d'abord nous mettre à notre place. Ce ne sont pas les Européens qui viendront encore écrire de nouvelles pages d'histoire à notre place au XXIe siècle.
Merci
beaucoup. Ce sont les Africains qui iront écrire de nouvelles pages d'histoire des Européens au XXIe siècle. Chaque peuple qui veut vraiment se prendre au sérieux, chaque peuple qui a besoin d'être respecté, il doit se mettre à sa place, s'assumer et se mettre à écrire ses propres pages d'histoire. Il doit repenser le conditionnement juridique dans lequel sa justice doit fonctionner. Mais quand déjà on sait que de l'intérieur du continent, de l'intérieur de nos pays, il y a des incohérences, il y a des histoires qui ne s'accordent plus, des incompatibilités, c'est alors que les autres profitent pour nous donner des leçons. Mais si nous devons nous mettre à notre place, leur faire voir que nous sommes aussi des grandes personnes, nous étudions dans leur université, ils viennent chez nous, nous sommes chez eux. Chez eux, ici, ce n'est pas le paradis. Il y a aussi des histoires qui ne marchent pas. Mais quand ça ne marche pas, ils sont entre eux, ils trouvent des solutions. Quand ça ne marche pas chez nous, nous recourons à eux pour qu'ils viennent nous donner des leçons. Et à un certain moment, quand ils s'érigent à donner des leçons, nous leur disons que non, c'est pas ça. C'est parfois de notre faute. C'est comme ça que j'ai toujours dit, un peuple qui ne peut pas se respecter ne peut pas attendre que les autres le respectent. Donc voilà. Nous devons d'abord apprendre à nous respecter, à nous mettre à notre place, à repenser le conditionnement dans lequel nous devons faire de la politique pour le bien de nos peuples. Et non attendre des dictats venant de tels. Parce que ce soit des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Union européenne ici, ils visent d'abord le bien de leur peuple et non le bien des autres.
Merci beaucoup Franck d'avoir appelé de Vienne en Autriche. Merci une fois encore à tous ceux qui nous suivent sur internet dans cette partie du monde. Merci Franck une fois encore. On va prendre Omar qui est à Kinshasa, mais Omar, vous gardez la ligne, le temps de revenir sur notre invité qui au fait va ramasser maintenant les appréhensions, les préoccupations et pourquoi pas les inquiétudes des uns et des autres. Alors professeur Tshibangu Kalala.
Merci Gilles, je vais commencer d'abord à répondre à votre question. L'Union africaine et la CPI. Non. La CPI, c'est une organisation internationale. L'Union africaine, c'est une organisation internationale. Les deux sont séparés. C'est une est autonome, indépendante. Aucune n'a de leçon, aucune n'a d'ordre à donner à l'autre société. Donc, c'est des organisations internationales autonomes, distinctes. Il n'y a pas de rapport de hiérarchie pour dire qui est supérieur, qui n'est pas supérieur. On n'a pas à se poser cette question.
Mais ils ont des statuts juridiques différents.
Bien sûr, donc, chaque organisation a son propre statut. Mmh. Donc, ça, c'est une organisation régionale qui regroupe les États africains, qui a ses objectifs, ses activités. La CPI, c'est une organisation à caractère universel qui s'adresse à tous les pays du monde pour une raison bien précise.
Mais qui a un caractère aussi juridique.
Oui, c'est un tribunal.
Qui poursuit un tribunal.
C'est un tribunal.
L'Union européenne n'est pas un tribunal.
L'Union européenne n'est pas un tribunal. L'Union africaine n'est pas un tribunal. Et donc, nous avons affaire à des organisations internationales qui sont autonomes, qui n'ont pas de leçons à se donner. Ce sont des États membres. Vous avez des États africains qui sont membres de la CPI, il y en a d'autres qui ne sont pas membres. Et donc, il n'y a pas de rapport de hiérarchie ou de subordination entre les deux organisations. Donc, on n'a pas à se poser cette question-là. Donc, ça, c'est un. De deux. S'agissant de la décision de l'Union africaine, de dire, écoutez, on ne peut pas, les chefs d'État en fonction, je suis d'accord avec cette décision, qui est une décision politique, d'une organisation régionale qui s'adresse à ses membres pour leur dire que nous ne pouvons pas accepter de livrer des chefs d'État en exercice à la CPI. Mais ça, c'est fondé sur l'article 98 que je viens de vous donner. Donc, il faut respecter les humilités. Ça, c'est clair. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec l'Union africaine quand elle décrète le refus général de coopérer avec la CPI en disant parce qu'ils poursuivent avec des Africains. Ça, je ne suis pas d'accord. On poursuit les Africains qui sont des criminels. Et puis la CPI est là aussi pour défendre des victimes.
Parce que cette position de l'Union européenne, ce n'est pas une façon de désavouer, pardon, l'Union africaine n'est pas une façon de désavouer la CPI.
Non, c'est une décision à caractère politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mm-hmm. Bon, dire qu'on poursuit que les Africains.
Pourquoi ne pas le faire officiellement? Parce qu'il y a des articles, il y a des dispositions qui, en fait, quand on veut se retirer, on peut écrire, on fait sa demande, on se retire.
Oui, mais ça, ce sont les États membres. Chaque État membre individuellement peut le faire. Il n'y a pas, l'État peut se retirer à tout moment. Il y en a qui ne sont pas membres. Mais ceux qui sont membres, ils peuvent se retirer. Mais les États africains ont cette couverture générale en disant que sur le plan continental, nous avons décidé de ne pas livrer de chefs d'État en exercice. Et ça, c'est conforme au statut de la CPI, l'article 98. C'est tout à fait normal. Et moi, j'approuve cette décision de l'Union africaine. Mais pas lorsque l'Union africaine dit, écoutez, on ne peut pas poursuivre des chefs d'État africains ou des gens africains. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que on poursuit des criminels. Et puis, il faut penser aux victimes, hein. Parce que la CPI a été créée aussi pour régler le problème des victimes.
Voilà.
Donc il ne faut pas parler
une politique de
deux points de mesure. Il ne faut pas parler seulement de ceux qui sont poursuivis, il faut avoir des victimes. Ça, je ne suis pas d'accord avec l'Union africaine. Mais c'est une mesure politique. Mais lorsque sa décision est conforme à l'article 98, là oui. Maintenant, il y a des auditeurs qui ont posé des questions, des inquiétudes. Oui. Ça, c'est très bien. Je peux commencer par Théodore Dembujimaï, qui se pose la question, mais quand est-ce qu'on peut arrêter Béchir? Parce que finalement, il y a un problème. C'est vrai. Tant qu'il est en fonction, on ne peut pas l'arrêter. Ça, c'est le droit international. Et la CPI le prévoit dans ses statuts. Bien. Écoutez, M. Théodore, il faut attendre quand il va quitter la fonction de chef d'État. Quand il sera un ancien chef d'État, on va l'arrêter. Parce qu'en ce moment-là, il n'est pas en fonction, il ne sera plus protégé par les immunités, dont il a, notamment l'inviolabilité physique. Mmh. Il faut attendre. Mais tant qu'il est en fonction, on ne peut rien faire. Ça, c'est clair. Deuxièmement, est-ce que la CPI peut avoir des policiers
de... tout ça,
Non. La CPI, c'est une organisation internationale, n'a pas de territoire. CPI est hébergée sur le territoire d'un autre pays. Donc, les Pays-Bas. Chaque pays a la souveraineté totale et complète sur son territoire. C'est la compétence.
Mais sa coopération avec l'Interpol, par exemple.
Oui, oui. Interpol, encore une fois, c'est une organisation internationale. C'est la police internationale. Bon. Mais ça, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'elle peut donner des mandats. Bon. Mais les agents de l'Interpol, ce sont des agents qui sont sur le territoire des États membres. Nous avons ici à Kinshasa une cellule nationale d'Interpol, et ce sont des OPJ, des Congolais qui sont là. Ils agissent, c'est qui vont agir. Donc l'Interpol n'a pas ses propres policiers qui vont aller n'importe où dans le monde aller arrêter les gens. Ils s'adressent toujours aux structures étatiques. Pourquoi? Parce que chaque État a la souveraineté totale, c'est ce qu'on appelle la compétence territoriale exclusive que chaque État a sur son territoire, qui découle de la souveraineté étatique. Et donc, la CPI ne peut pas venir ici avec ses policiers arrêter des gens ici. Hein? On pensait à un moment donné, oui, mais la MONUSCO peut venir ici arrêter les gens ici.
Une question aussi,
ça, c'est quoi, n'importe quoi. La MONUSCO n'est pas ici pour exécuter les mandats de la CPI. Ce n'est pas dans sa mission. Hein. La MONUSCO n'a pas de compétences territoriales ici. C'est le gouvernement congolais qui est souverain, qui gère le territoire. Il n'y a que des policiers, des agents de sécurité de la RDC qui peuvent arrêter un étranger ici. La MONUSCO n'a strictement rien à voir avec ça. Donc il faut bien... Parce que j'ajoute, s'agissant de Franck de Vienne, ou de Watson de Colusi, qui parlait des conséquences, il a parfaitement raison. Vous imaginez, Gerlungembo, un chef d'État en fonction. Il est invité officiellement à l'étranger. Il arrive dans un pays qui a l'obligation d'assurer sa sécurité. Eh bien, ce pays-là
prend le livre,
on lui met les mains au point, il devient un criminel. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Ça peut déclencher même une guerre internationale. Le Soudan peut envoyer des avions militaires commencer à bombarder le territoire de la RDC. Et puis ils peuvent entrer en guerre. Donc ce n'est pas de la plaisanterie. Et ce n'est pas pour rien que les États ont dit, à l'article 98, il faut respecter les immunités parce qu'il y a des conséquences. Vous imaginez, on lance un mandat d'arrêt international contre le président Obama des États-Unis. Obama se trouve en Allemagne ou tout ça, et puis on l'arrête là-bas. Parce qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre Obama. Ben, vous imaginez les conséquences entre les deux pays. Et comme Watson le dit, nous avons des ressortissants congolais qui sont en Soudan, mais ils seront massacrés dans la rue par des actes de folie et de massacres collectifs. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas faire de l'activisme, du militantisme à tout moment. Il faut respecter les règles du droit international à la matière. Donc ça, c'est très important. S'agissant de Franck, mais je suis tout à fait d'accord avec Franck, son analyse, eh bien, on ne peut pas régler la question de Béchir sur le dos de la RDC. Le comportement des autorités congolaises est tout à fait correct. J'ajoute que la CPI ne peut pas donner l'ordre à la RDC ou à un autre pays de ne pas recevoir Béchir sur son territoire.
Voilà,
ce n'est pas dans la compétence de la CPI. Oui, et donc, chaque pays apprécie souverainement qui l'invite, qui ne peut pas inviter.
Voilà,
de ce côté-là, il n'y a pas de
Il y a des juristes qui nous ont rejoints. Je crois que les débats vont vraiment son pesant d'or, hein, par rapport aux aspects juridiques.